et bonsoir chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 11 janvier 2018. Alors aujourd'hui dans le Max Sport, vous retrouverez une foule d'informations avec bien sûr le retour de nos Breaking News Sport, bien sûr, mais pas que, puisqu'on vous a réservé quelques petites surprises avec une très très longue interview d'un invité, on va dire, de marque qui va ravir tous les auditeurs albigeois. Mais avant tout cela, revenons tout d'abord sur le Sporting Club albigeois et la Fédéral 1, puisque le Sporting, vous le savez, après avoir subi un revers cinglant face aux valeureux amateurs Nafartar de Nafarroa, vont tenter de se remettre la citrouille à l'endroit. Arnaud Mella, qui a pratiqué avec l'ensemble de son staff la thérapie de groupe et qui a remis les barres sur les T et les points sur les I mardi, veut maintenant réenclencher une dynamique vertueuse avec le mois de mai en ligne de mire. Malgré ce coup de pied aux fesses, on va dire, comme mis les basques aux abeilles du Sporting, il va falloir se remobiliser vite, voire très très vite, car de grands enjeux attendent le Sporting Club albigeois. Allez, on va faire notre petit tour dans le petit monde du Sporting Club albigeois et de la trépidante Fédéral 1. Eh oui, on n'est pas à Brecello, mais à Albi et au Sporting Club albigeois, la vie a repris son cours après le cataclysme de cette défaite 18-15 qui restera ancrée et fera partie intégrante maintenant de la grande et de la petite histoire du SCA et qui restera aussi comme de ses revers qui vous marquent au fer rouge. Mais bon, qui sait ? Si Roval ou Rouen auraient fait mieux et dans un tel contexte assez on va dire hostile, mais dans le bon sens du terme, et avec un terrain à l'ancienne, pas si sûr face à une bande de copains qui auraient quasiment été prêtes à mourir sur le terrain pour l'amour d'un maillot et d'une terre. La défaite à Anglet avait été le point de départ, on va pas s'en cacher, d'un rebond salutaire qui avait vu le Sporting reprendre le leadership à Saint-Jean-de-Luz, gagner le derby face à Lavoir et battre dans une âpre lutte Tarbes, avec au passage des victoires face à Marmande et à Tyros. Espérons que samedi soit la renaissance sportive du SCA pour tendre vers la Pro D2. Un objectif et qu'on a tous en tête du côté de la cité épiscopale, puisqu'on rêve, vous le savez, et on se répète tous de revoir nos abeilles lutter avec les grosses écuries de Pro D2. Mais pour l'instant, on est un fédéral et pour connaître l'état d'esprit des Albigeois avant de recevoir l'avenir valencien, qui seront loin d'être des faire-valoir, on va vous faire écouter la conférence de presse d'Arnaud Mella. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit parti pris en vous faisant écouter la conférence du coach albigeois en brut pour que vous puissiez entendre l'envers du décor. Écoutons à mon micro, à celui de Laurent Batigne, 100%, et en compagnie de nos confrères du temps libre, de la dépêche et du site des bénévoles du SCA, le berger des brebis jaune et noir.
Comment s'est passée déjà la semaine et la digestion?
J'ai encore des erreurs d'estomac. Le Gaviscon fait pas tout. Hein. Ouais. Donc, mais qu'est-ce que je vous dis? On a été pris un peu. On a joué quand même un match de rugby, un match d'homme quand même, mais c'était un match qui ne nous servira pas à grand chose pour s'approcher du niveau Pro D2 quand même. C'était un contexte très compliqué à tout point de vue. Compliqué pour mes joueurs, compliqué pour l'arbitre parce que il y a une main courante à 1 mètre du terrain avec beaucoup de monde qui est très chaud. Un public qui a quasiment arbitré. Un match, un terrain gelé en plein déjeuner de 15h avec un match amical avant pour finir de le bousiller. Quoi. Donc voilà, c'était un match compliqué à gérer. On n'a rien eu à se mettre sous la dent. Hein. Sous la mi-temps, on n'a pas une pénalité. On aurait pu peut-être avoir une récompense ou deux sur une mêlée. On aurait pu prendre peut-être 3 ou 6 points au pied, mais on n'a pas été récompensé. Donc voilà, c'était un match très haché. C'est que voilà, les joueurs Nafarroa étaient prêts à faire cette guerre. Hein. Et mes joueurs, malheureusement, ils ne s'entraînent pas, ils ne jouent pas des matchs comme ça tous les week-ends. Hein. C'était quand même particulier. Donc il y a des joueurs qui ont pas failli, hein, qui ont été au combat. Mais on est passé à côté sur une erreur défensive, surtout sur cet essai de 80 mètres. Là, pas en direct, mais On a 4 joueurs qui se sont trompés, qui ont fait une erreur sur la même action et ça nous a mis un peu dans la nasse. Puis on n'a pas réussi à scorer juste avant la mi-temps avec ces 4 ou 5 mêlées qu'on a eu sur la ligne. Alors on n'a pas été récompensé, c'est le pénalité. On n'était peut-être pas assez dominateur, mais voilà, c'est le tournant des matchs est là. Quoi.
Alors il y a pas mal de supporters qui se posent la question de comment on est arrivé là après cette défaite. Quels sont on va dire, les ingrédients, un démarrage un peu poussif on va dire, après le réveillon, les soubresauts qui sont en coulisses qui ont peut-être un peu parasité le sportif, ou tes joueurs ont manqué d'humilité, ou alors encore même peut-être on a eu affaire à une équipe de Nafarroa qui a fait le match de sa vie. Pour toi c'est un peu de tout, ou alors il y a une cause bien particulière?
Non, mais on fait une bonne première mi-temps. Hormis qu'on score pas, on fait une bonne première mi-temps. Comme je dis, on a pris cet essai qui est une grosse erreur défensive. Hein. Mais à part ça, on fait un bon match, on fait une bonne première mi-temps, on les coince chez eux. Le problème, c'est qu'on passe du temps chez eux. On a juste ces pénalités avec ces 5 mètres. Mais là, 5 mètres, mais après, on n'a pas voilà, on n'a pas le plaqueur plaqué qui est sanctionné, on n'a pas des hors-jeux, on n'a pas des plaquages aussi sans les bras sanctionnés. On n'a pas de points à se mettre, on n'a pas de pied à pouvoir taper. Quoi. Donc, on se retrouve, la première action du match qu'on fait, on passe un coup dans le dos, on arrive à manipuler, on est quasiment à une action de marque. Les voyants étaient ouverts en première mi-temps. Après, la seconde mi-temps, ça s'est un peu tiolé, le terrain était vraiment devenu un peu impraticable, donc on n'a pas réussi à faire une séquence, on a fait juste une séquence quand on a marqué l'essai, où on a fait 4 temps de jeu en sortant des ballons 4 fois propres, et on a marqué, mais ça on a réussi à le reproduire que 2 fois dans le match, quoi. Une fois en première mi-temps, une fois en seconde mi-temps.
Et là, ce week-end?
Bon, ben là, c'est pour ça, là, enfin, moi, Nafarroa, j'aurais une dernière couche là, parce que bon, on a fait quand même la risée du rugby, donc les journalistes et le club, tout le monde s'en est... s'est régalé de ce match-là. J'aurais préféré qu'on voit les conditions et qu'on... Je ne veux pas protéger les joueurs, mais bon, voilà, on est loin de voilà, la fédérale une élite. Là, on en était très, très loin. Donc, je félicite quand même, par contre, Nafarroa parce qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient et ils l'ont bien fait. Maintenant, nous, voilà, on reçoit à Valence, on va jouer au stadium, il n'y a pas d'excuse, le terrain, au vu de la météo, ça va être bon, quoi, comme aujourd'hui, quoi, à peu près. Donc je m'attends à une réaction de mes joueurs, j'attends une réaction de mes joueurs et nous aussi, moi le premier, nous on a rebossé cette semaine parce que quand il passe à côté comme ça ou quand on ne gagne pas, c'est pas que les joueurs, c'est pas ils perdent et on gagne. Non. Donc on a bossé très sérieusement sur Valence-Agen et aussi sur nous surtout. Quoi.
T'as pas peur d'avoir démontré, d'avoir délivré aux adversaires un défaut de la cuirassée à lui, c'est-à-dire que quand il y a une équipe qui nous prend à la gorge, qui essaie de nous faire un peu disjoncter, on a du mal à rester le match?
Oh non, c'était. Je vois pas une équipe qui est capable de reproduire ce qu'ils ont reproduit sur ce match-là. Et comme je l'avais dit la semaine avant, c'était une équipe de potes et ça s'est ressenti. Ils ont fait des choses. Ils m'ont fini les 15 dernières minutes à faire des. Ils reconstruisaient des ballons portés en plein milieu de terrain. Ils étaient à 14 dedans. Alors, je vois pas ça se faire en phase finale. Quoi. Je veux dire, c'est plus l'heure du temps, mais en tout cas, ça a gagné ce week-end. Et il faut le féliciter. Mais non, je crains pas ça. Je crains pas ça. Après, on a pris trois cartons jaunes qui ont été signalés à l'opposé face à la tribune adverse qui était quand même ultra bouillante avec un arbitre de touche qui avait quasiment les reins qui touchaient le premier supporter. Donc, à chaque fois, c'est lui qui a signalé des plaquages au haut. Le corps arbitral était sous pression aussi. Voilà, moi, je les critique pas. Je dis qu'ils avaient un contexte très particulier arbitré. Et là, on prend 3 cartons, surtout, c'est le timing des cartons, quoi. C'est carton jaune, 2 minutes 30 après, carton jaune, mais 2 secondes de ligne, voilà, on se retrouve à prendre un essai parce qu'on est 2 de moins devant. Je crains pas ça, voilà, et je sais que mes joueurs valent bien mieux que ce combat où on est passé un peu à côté.
Allez, pour clôturer Nafarroa, un public comme ils ont à Nafarroa, ça te fait pas un peu envie? Parce qu'on voit des fois les tribunes du stade un peu clairsemées, ça te fait pas envie quand même d'avoir une ambiance comme ça? Ça pourrait t'aider des fois quand t'es un peu dans la nasse?
Ah, c'est une région qui vibre rugby, hein. C'est les contreforts des Pyrénées. Et ce village-là et cette entente-là, c'est vraiment une vallée qui affronte derrière son équipe. Et là, aujourd'hui, sur ce match-là, on s'est rendu compte que c'était la victoire plus de deux clubs, quoi, de deux villes, quoi, de deux villages. Et c'était beau à voir aussi, c'était beau à voir. On a vu une communion réellement. C'est sûr que c'était... On ne peut pas comparer aujourd'hui une ville comme Albi avec un Castres à 20 bornes et un Toulouse et un Montauban, il y a des gens de partout. Là-bas, ils ont vraiment... Je ne suis pas sûr que les gens de Nafarroa descendent à Bayonne voir des matchs. Hein.
Sur le match de ce week-end contre Valence, ça avait été quand même pas simple, totalement simple à chez eux. Là, comment vous avez préparé ce match?
Ouais, ben on a essayé de remettre à peu près des choses en place par rapport à... on n'a pas pu jouer le week-end dernier, donc on a essayé de remettre des choses en place. Après, c'est surtout l'envie qu'ils vont avoir de s'envoyer et de prendre du plaisir sur le pré. Ils nous l'ont prouvé quand même chaque fois qu'on a joué à la maison, on s'est quand même pas trop ennuyé, et donc je sais qu'ils vont faire un bon match. Après Valence, ils se sont refait une santé. Quand on y avait été, ils étaient un peu dans le doute là, ils ont coincé quand même Tarbes chez eux, ils ont coincé Anglet chez eux. Ils sont sur une bonne dynamique quand même, donc ils étaient au repos le week-end dernier parce qu'ils avaient joué avant. Donc je sais qu'ils vont avoir bien sûr coché ce match parce qu'ils avaient que ça à penser depuis un mois presque. Donc ça va être un match difficile, devant c'est un gros pack, ils ont le numéro 8 qui les fait tout le temps avancer. Puis après ils ont un 10 qui a de la longueur à revendre, qui te tient souvent dans ton camp. Donc voilà, ça va être un match sérieux, une équipe solide. Normalement il devrait y avoir un joli match de rugby.
Tu n'aurais pas tout intérêt à mettre beaucoup de rythme, en début de partie, parce qu'on sait très bien que pour toute équipe dans un sport collectif, les reprises c'est souvent compliqué. Peut-être tu pourrais les mettre en sur-régime.
Ouais, ben on va voir. Je ne vais pas peut-être donner tous les plans pour qu'ils s'adaptent, mais non, on va essayer de faire. On a réfléchi à tout ça, on va essayer de faire un bon match et surtout faire en sorte que les gens du stadium et des travailleurs du stadium prennent du plaisir à nous voir. Et puis aussi, on a une personne dans ce club qui est décédée. Mais on doit bien un joli match à Serge, vu le temps et la sueur qu'il a laissé pour tous ces jeunes qui sont là. Et le nombre de générations de jeunes qu'il a vu, on mérite bien de faire un grand match au moins pour ce week-end.
L'équipe,
Donc l'équipe Bastien de Dieu, Lomu Tafili et Arthur Castan, Gianni Gaillard, Mathieu André, capitaine, Jérôme Dufour, Simon Vérac, Tonou Tavalia, à la mêlée Laurent Magnaval, en 10, Thibaut Bisman, au centre Gaëtan Bertrand et Benoît Sicard, aux ailes Simonie Navarro et Alfie Mafi, à l'arrière Thomas Lasselle, remplaçant Jean-Jacques Gimael, Guillaume Vedel et Zaza Navrojashvili, qui vient d'être papa.
Très bonne nouvelle, voilà. On l'en félicite.
Ruslan Bouquerou, Paul Faré et William Wheaton, Jérémy Russell et Lucas Vaccaro.
Ok. Dernière question. T'as pas la crainte que ce match contre Nafarroa ait laissé des traces indélébiles dans la psyché de tes joueurs?
Non, je pense pas. De prendre un coup de pied au cul, des fois, ça fait du bien. J'en ai pris une paire et je m'en suis rarement mal comporté le week-end après. Souvent, ça fait du bien, ça secoue. Et voilà, on peut. Faut pas s'inquiéter, le rugby c'est le sport de combat, on a une chance. Donc ce week-end, ils ont qu'à relever les manches et puis faire un gros match. Et puis vous savez, si je leur dis il faut qu'on prenne des points de bonus pour effacer ces. On a pris un point quand même là-bas. Mais il faut qu'on prenne des points de bonus pour effacer ces matchs. Donc maintenant, à eux de faire le boulot.
Et s'il y avait un truc à changer, qu'est-ce que tu changerais?
Ouais, pas grand chose, je changerais un peu plus de tête. On s'est fait quand même coincer sur aussi pas que la générosité, mais l'intelligence par moment.
Allez, pour finir la question, parce qu'il y a un match. Samedi, les maîtres mots pour aller défier et recevoir surtout Valence d'Agen.
Ouais, notre discipline continue à travailler là-dessus parce qu'on a encore joué 30 minutes à une de moins. Donc la discipline et puis la prise de plaisir.
Merci Arnaud.
Arthur, c'est un joueur très besogneux et qui adore le travail proche. C'est un joueur qui est peut-être un peu moins dans le jeu aéré, mais dans le jeu de combat, il est là et c'est son point fort. Donc il nous a pas dessus, il a bien lancé, il a été vaillard, il a plaqué à tout droit. Il a fait, il a gagné des mètres sur une ou deux percées. Donc il faut qu'il continue à bosser. Il a fait aussi 2-3 erreurs quand même. Donc il faut qu'il continue à bosser. Après Guillaume, c'est un peu plus. Il rentre un peu moins de temps, mais j'aimerais que ça se passe un peu mieux ce week-end pour pouvoir le faire au moins jouer un peu plus. Et comme il m'a dit tout à l'heure, c'est lui de l'école de rugby d'Albi. Et là, il est vraiment en plein rêve. Quoi. Donc j'espère pouvoir lui donner un peu plus.
J'ai oublié l'essentiel. Tu nous parles un peu de ta dernière recrue.
La dernière recrue, non, mais c'est.
Surprise.
Ouais, mais c'est Kevin qui a retrouvé une licence, donc ça fait un petit mois qu'il me demandait, il a envie de jouer au rugby, il a que 31 ans, et ça fait un mois qu'il me demande, il me dit allez, qu'est-ce que tu penses et tout ça, et je ne peux pas m'empêcher un joueur qui avait arrêté et qui peut reprendre à 31 ans, surtout un joueur comme lui aussi qui est talentueux, et c'est un joueur aussi de notre club, donc qui a un peu les couleurs jaune et noir dans le sang, donc je ne pouvais pas l'empêcher de reprendre. Donc voilà, il va reprendre la santé. Là, il a au moins pour 3 semaines de physique à faire, en plus du rugby qui fait les joueurs. Mais j'espère que son expérience nous fera du bien dans les moments importants.
Pour donner quelques ficelles à Romain Ruti et à Jérémy Russell.
Oui, bien sûr, il faut qu'il se serve de lui, de l'expérience qu'il a, et de tout ce qu'il a. Il a passé des années en top 14. c'est un joueur qui était plutôt vislard et qui avait tout le temps des petits coups de ruse. Voilà, il faut qu'il, que tous les autres joueurs se servent de son expérience, ça les fera grandir.
Merci. Après avoir écouté Arnaud Mella, qui nous a parlé du retour de l'enfant prodige du Stadium et de Kevin Boulogne, qui était son adjoint en charge des lignes arrière avec Jérémy Vanin, donc poste que maintenant va occuper principalement Jérémy Vanin, et Kevin Boulogne ne s'occupera que des retours et des analyses de match le lundi. Donc Kevin Boulogne, comme vous l'avez entendu, va rechausser les crampons. C'est les mois dans la cité épiscopale, et depuis quelques heures la nouvelle est sortie, et que ce soit sur le ministère par ma plume ou sur la dépêche, et les supporters en sont ravis. On espère que Kevin, qui a coupé pendant 2 ans et demi pour des problèmes d'hernie cervicale, va pouvoir revenir à la plénitude de son niveau et apporter son expérience, sa niaque et sa soif de vaincre pour que le SCA revogue vers des cieux le plus haut possible et qui tendent à toucher du doigt la Pro D2. Donc, comme je vous disais, après avoir écouté Arnaud Mella, nous allons vous réserver une surprise en passant directement à notre seconde interview. Une interview transversale sous la Fédérale 1 avec l'un des plus grands connaisseurs hexagonaux du rugby. En avant pour notre interview pour l'amour du rugby.
Patapim patata, o sei non mi sorrido, come a pastri che spiate mi ho detto su te che la anche la sera. Patapim patata, o sei so chi mi arrivo, e c'è nato via che mi vanno sul cammino che cammino con te.
Allez, on a le plaisir d'avoir le plus albigeois des sorciers gersois, Henri Broncan. Henri, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour aux Tarnais, aux albigeois d'abord, et aux Tarnais ensuite.
Bien sûr, et c'est toujours, vous le savez, un plaisir de vous avoir à notre micro. Vous avez laissé, on va dire, un souvenir impérissable en terre albigeoise. On est toujours content de discuter ballon ovale avec vous. Alors Henri, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce week-end, c'est passé une des belles pages de l'histoire du rugby. Un moment où on voit que le rugby est plus qu'un sport et vraiment quelque chose qui peut transcender tout un pays. Cette victoire de Nafarois face à Albi, qu'est-ce que vous en avez retiré, le petit poussé qui a fait trébucher l'ogre albigeois avec des valeurs en dessous qui sont assez sous-jacentes, la solidarité, l'amitié. Ça a dû vous plaire, à vous, on va dire, le grand partisan du rugby des villages.
Oui, tout à fait, bien entendu. Ça va bien. Je regrette que ce soit Albi qui a été la victime du succès des Basques, mais il faut savoir quand même que ce succès est d'autant plus mérité que je crois Arnaud Mella, qui est du plateau d'Annemezan, qui sait ce que c'est que justement le caractère des Basques, le caractère aussi des Bigourdans, etc. Arnaud Mella était averti, avait certainement averti ses joueurs. Je sais que ses joueurs se sont entraînés, je crois, pour le jour de l'an, sont partis au vert la veille à Bayonne, donc on ne peut pas dire qu'il ne les ait pas avertis. Il savait ce qu'il attendait à Baïgorry. En plus, je crois que les Basques avaient de Nafarois avait choisi le terrain de Baïgorry, qui est un terrain beaucoup plus petit, où la pression du public est beaucoup plus forte que celui de Saint-Jean-Pied-de-Port, que celui de Garazi.
Un vrai terrain champêtre.
Oui, voilà, mais je le connais, il est magnifique, quoi. C'est un des plus beaux terrains, pour moi, c'est un des plus beaux terrains du monde. Ça vaut l'aréna, ça, j'en suis sûr, quoi. Je préfère me promener là-bas, parce que je connais bien ce pays-là, parce que tout simplement, il y a longtemps, vous savez, il y a très longtemps que ce club qui était divisé en deux, il a fallu que Jojo Tuzan et surtout Pierre Camus, les deux ensemble, réussissent. Ça a été très compliqué de faire l'entente entre les deux, parce que c'était deux pays, deux villes qui s'affrontaient régulièrement. La ville principale étant celle de, bien sûr, Saint-Jean-Pied-de-Port, de Garazi, et le petit village étant celui de Baïgorry, mais longtemps Baïgorry a tenu tête à
son grand frère, à son aîné.
Oui, c'était très longtemps, et puis il a fallu vraiment pour créer l'union entre les deux, il a fallu deux grands personnages du rugby, Pierre, donc Amou, bien entendu, malheureusement disparu, et il a fallu, à propos de disparition, je voulais quand même que dire toute ma reconnaissance à
Serge Cabou.
Actuellement, avec Serge Cabot, qui était vraiment un ami, quoi, qui était, j'avais beaucoup apprécié pendant les 4 ans que j'ai passé à Albi, la présence de Serge à mes côtés, quoi. Voilà, quoi.
Et puis, c'est aussi un très grand monsieur du rugby et de l'arbitrage pyrénéen.
passionné d'arbitrage, un passionné de rugby qui passait ses journées d'ailleurs au club et qui a fait un très bon travail. Et puis c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter quand on était en difficulté, on pouvait le rencontrer. Quoi. Voilà. Okay. Bon, ça c'est
la parenthèse.
Ça, oui, bien entendu, une grande parenthèse quand même. Et
il le mérite ça.
Après, bien entendu, ce qu'ont réalisé les gens de là-bas, c'est extraordinaire. Quoi, bien entendu. Après, je crois que pour le Sporting Club albigeois, c'est une très bonne leçon d'humilité et que ça va leur servir, tout simplement. Justement, ça ne prête pas à conséquence parce que Albi, bien sûr, va se qualifier. Albi va suivre son chemin vers les phases finales. Mais c'est un avertissement. Et on tire toujours des leçons de défaites comme celle qui a été qu'ils ont concédé
Anglette aussi derrière, et Anglette vous avez permis
oui,
aussi d'avoir
c'est quand même un niveau, supérieur oui. Par rapport à Baïgorry, par rapport à je dis toujours Baïgorry en fait c'est
Nafarroa
bien sûr voilà c'est Nafarroa hein. J'ai tendance à mettre toujours à l'avant Baïgorry parce que des deux club de l'entente c'est le petit quoi voilà.
Oui et puis en plus à l'époque avec Lombès Samatan vous me disiez en off que vous les aviez rencontrés qu'il y avait une sociologie à cette époque il y a une vingtaine d'années qui était assez particulière si vous pouvez nous en dire un peu plus.
On s'est manqué parce que nous devions les rencontrer pour un match de phase finale qui était d'ailleurs une montée à l'époque dans ce qu'on appelait la Pro D2 et j'étais allé les voir jouer, j'étais allé les espionner si vous voulez, c'était Baïgorry hein. Et ils avaient une première ligne d'enfer, je me rappelle très très bien, deux maçons qui étaient associés et le talonneur c'était l'employé des deux maçons.
D'accord.
Il y avait trois maçons en première ligne, ils me rappellent très bien Biondo, Trondet et Aristoi, c'était terrible quoi. Pourtant ils n'avaient pas de gabarit, mais ils avaient des reins hein, terribles. Et puis c'est là que j'avais eu l'occasion quand même de rencontrer Jojo Duzan, de parler beaucoup avec lui, qui était pas enseignant là-bas, et avec qui c'est le père du journaliste d'ailleurs de Midi Olympique. Mm-hmm. Et j'avais écouté avec passion les récits qu'il me faisait sur ce club de Baïgorry. À cette époque-là, j'étais très marqué par le théâtre.
L'indépendantisme basque.
Voilà, exactement. Il avait dans ses rangs le 3-4-3 jouant à l'aide de Bidard. Bidard qui avait défrayé la chronique. Il avait dans son équipe à ce moment-là, il y avait donc des gens de l'ETA, mais il avait aussi des gendarmes dans l'équipe et tout ça. Ça faisait la paix des bras, l'appel le dimanche après-midi pour défendre les couleurs de Baïgorry. J'avais trouvé ça extraordinaire, comme un petit peu.
C'est ça la magie du rugby.
Les frontières étaient gardées et il y avait également des douaniers, des contrebandiers. C'est un pays où tout ça, ça se retrouvait ensemble.
Le dimanche, alors que le lundi, il jouait au chat à la souris.
Tout à fait, avec le rugby comme moyen de se retrouver ensemble. Alors, vous pensez bien que bon, ça faisait la guerre, on peut le dire, mais on ne pouvait pas se faire la guerre totalement. Quoi. Ça, c'était il y avait des connivences incontestables parce que le rugby permettait ça. Quoi, voilà, quoi. Et ça m'avait marqué. Et puis, d'ailleurs, il y avait aussi une grosse connivence avec Saint-Jean-Pied-de-Port, avec Aranzi d'ailleurs. Je me rappelle très bien qu'il y avait une émission de Canal. De l'époque, ça doit revenir aux années 95, je sais pas, 96, où on les montrait, on est en train de chasser ensemble, en particulier de se retrouver dans les palombières, les joueurs des deux équipes, et ça se retrouvait l'un contre l'autre le dimanche, et bien sûr, ces matchs-là, entre Baïgorry et Garazi, étaient beaucoup de monde, beaucoup de public, bouillant. Et puis le mardi, ça repartait à la chasse ensemble, etc. C'est tout ce que le rugby peut apporter à notre société, on l'avait dans ce microcosme.
Et qui se perd un peu dans les écuries pro, où on va plus vers une normalisation et une aseptisation, alors que on va dire, ce rugby des champs garde une âme, une racine profonde qui donne son charme.
Bien entendu, en produisant des joueurs de rugby de talent, la plupart d'entre eux voulant rester au pays, quoi. C'est ça. Bon, il y a bien sûr Arinor Doki, qui est le joueur le plus célèbre sorti de
l'icône.
L'icône. Mais je veux dire, il y en a plein d'autres qui auraient pu être de très très bons joueurs de rugby et qui sont restés au pays parce qu'ils sont bien, quoi, tout simplement, qui n'ont pas besoin d'aller dans les clubs professionnels parce que ils sont heureux là, ils ont une qualité de vie, ils ont puis c'est leur racine, c'est leur repère. Bon, moi, il faut savoir que cette victoire c'était pas le fait que ça soit contre Albi, mais cette victoire ça aurait été contre n'importe quel.
Ouais, Roval, ça aurait été pareil.
Ça aurait été pareil. Voilà. Elle a été très appréciée dans le monde du rugby amateur. C'était un petit peu, un peu la revanche, entre guillemets, du rugby amateur. C'était un petit peu humilié, quelquefois, Quelquefois, on a tendance à s'en moquer, alors qu'on oublie trop souvent dans le monde professionnel, c'est le monde professionnel qui s'en moque, on oublie trop souvent dans le monde professionnel que la plupart de nos internationaux sont sortis de clubs très, très humbles, de clubs de séries régionales, de clubs qui appartiennent justement au milieu amateur. C'est eux qui sont les meilleurs formateurs quand même de notre rugby. Après que les joueurs, ensuite en Galet Junior, se retrouvent au niveau supérieur, pas de problème. Mais on oublie le club Nestor, quoi. Si on fait bien attention, très très souvent nos joueurs qui composent nos équipes nationales, ils sont issus de ces petits villages ou de ces cités, puisqu'on a de nos jours de plus en plus de joueurs aussi. C'est très très bien aussi qui sortent de nos cités. C'est un moyen là aussi de se retrouver dans un autre milieu. Enfin, c'est le rugby qui permet cela, quoi.
Oui. Voilà,
quoi.
Et puis vous me tendez un plat perche, on le voit, et vous parlez de joueurs formés dans des petits clubs amateurs comme Nafarroa et qui après vont vers d'autres cieux. Imanol Arinordoki en est l'exemple. Et il n'oublie pas d'où il est venu, puisque dimanche, il était au long de la main courante pour aller soutenir, on va dire, dans les rucks, les 15 Vaiantas qui ont fait chuter le Sporting. Donc on voit que même Imanol, qui a connu les Strass et les Paillettes, du top 14, de l'équipe de France, de la télé, il n'oublie pas de là où il vient, de ses champions de port.
Pas du tout. D'ailleurs, la plupart quand même de nos joueurs pro ne l'oublient pas. Quelques-uns l'oublient quand même. Je suis vigilant, je fais très attention et je vois, j'en vois quelques-uns, je suis souvent déçu, je ne citerai pas de nom, mais comme tendance, par exemple, quand on leur demande un petit peu leur carrière jusqu'à l'équipe nationale, etc., ils ont tendance à oublier le club Nessers, le club Nessers et l'éducateur Nessers, quoi. Parce que il y a des, bien sûr, on a tendance à parler des grands entraîneurs de notre rugby français, mais on oublie que à la base, au départ, il y a des gens qui ont permis à ces joueurs-là d'aimer le rugby, quoi. C'est la première des choses.
C'est eux qui ont déclenché la flamme, on va dire.
C'est exactement, tout simplement, qui les ont attirés vers ce sport-là, qui les ont convaincus d'y rester, qui leur ont beaucoup apporté. On oublie ces gens-là qui permettent justement à notre rugby, dans des moments difficiles actuellement, de continuer à vivre, quoi. Alors, et d'attirer des jeunes.
Bien sûr. Alors, lors de notre dernière interview, on avait un peu mis le curseur sur l'intégrité physique et le fait qu'entre des amateurs et des pros, il pouvait y avoir des accidents. C'est toujours le cas et on espère qu'il y aura toujours un ange qui veillera sur la Fédérale 1 et qu'on en verra le moins possible. Mais alors, le paradoxe du match entre Nafarroa et Albi, c'est que les Nafartars se sont battus comme des beaux diables et ils auraient été quasiment prêts à mourir sur le terrain. Mais quand on fait le compte des blessés, c'est Albi qui a, passez-moi l'expression, a ramassé cher, puisque Ben Kaminati est resté KO. Il a subi une commotion cérébrale, et Moshe Nessy a le genou en vrac, comme quoi ces petits amateurs qui rendent 20 kilos aux Albigeois, et bien tout compte fait, ils sont pas si friables que ça.
Oui, bien, c'est très bien, mais je pense que certains sont allés là-bas avec le score un peu trompeur du match aller. Se sont dit on va gagner tranquillement, on va se faire peinard, et puis on se fait jamais peinard quand on tombe contre un groupe extrêmement motivé, décidé, comme pouvaient l'être les Basques dimanche dernier. Et c'est dans ces moments-là qu'on se blesse. Que souvent je dis que le rugby est un sport d'élite. Alors, ça a été très mal interprété, parce que je fais des réunions dans mon département, c'est un sport d'élite. Et alors tout de suite, élite, ça veut dire top 14. C'est pas ça du tout. Je dis que même en quatrième série, le rugby est un sport d'élite. C'est que si vous n'êtes pas prêt, eh bien, vous vous blessez. Si, quelquefois, je crée après mes amateurs de Miranda de Milan, parce que ce sont des festivals, comme le sont d'ailleurs les joueurs de Garazi, et il arrive quelquefois que les veilles de match, eh bien, ils se laissent aller, ils finissent très tard le matin, et puis ils m'arrivent l'après-midi avec les traits tirés, etc.
Et les poches sous les yeux.
Voilà, et peut-être un petit peu d'alcool dans le sang encore. Eh bien, c'est là qu'ils sont en danger. C'est le rugby, on peut pas aller sur un stade, même en quatrième série, je le répète, on peut pas aller sur un terrain si on n'est pas bien physiquement, quoi. Voilà, c'est là que les accidents arrivent. C'est un sport qui exige d'être prêt, c'est un sport de combat, quoi, tout simplement. Hein. C'est comme si je vais en montagne et j'ai pas les bonnes godasses, je suis pas entraîné, etc., quoi, et je ne prends pas les précautions. Au rugby, c'est un sport dans lequel on doit prendre tout simplement des précautions pour pouvoir le pratiquer convenablement et pour pouvoir aussi tout simplement apporter à l'équipe qu'on représente, au club qu'on représente, parce que voilà, ça compte aussi ce qu'on a apporté.
Bien sûr, et j'imagine aussi qu'à la fin, vous qui aimez bien aussi tout le folklore qui est autour du rugby, ce qui fait l'âme et le charme du rugby, c'est Cham Basque avec Pascal Janot effondré en larmes d'émotion comme s'il avait gagné quasiment la Coupe du Monde. On va dire que c'est leur petite Coupe du Monde à eux, aux joueurs Nafarroa. C'était beau, même moi qui suis un fervent supporter albigeois en tant que média local, j'ai trouvé ça très beau, et puis j'étais content pour eux, même si j'avais une grosse déception pour nos abeilles. Albigeoise.
Vous savez, avait, il y a une dizaine de personnes dimanche soir qui m'ont envoyé des images de cette fin de match, de ces champs basques, etc. Parce qu'elles savaient que ça allait me toucher. Moi, j'étais juste au courant du score. Je suis pas un très grand fan d'Internet, mais j'ai reçu plein de, justement, ces images-là. Tous ceux qui me connaissaient bien me les ont envoyées, quoi. Parce qu'ils se sont dit, le vieux, ça va lui faire plaisir, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'entendre ces champs basques, etc. Ce public transcendé, c'était magnifique. Je le répète encore une fois, je regrette que ce soit Albi, mais je pense que ça va servir à Albi. Je suis sûr même que ça va leur servir. C'est une leçon et il faut en tirer. Ils en tireront la leçon plutôt.
Comme on discutait avec Arnaud Mella hier, un peu à bâton rompu, et après la conférence de presse, s'il faut cette défaite à Nafarro ou même celle à Anglette, quand on sera dans le dur, dans les phases finales, à des moments de doute, en repensant peut-être à Nafarroa, ça donnera le peps, le supplément d'âme qui permet de faire basculer le match dans le bon sens.
Je suis sûr qu'Arnaud va en tirer la leçon. J'en suis sûr parce que il a cette âme, lui, il a cet esprit-là. Il est de là-bas, il n'est pas de loin, il connaît tout ça. Vous voyez, Arnaud, il a su garder, il a un pied, bien sûr, dans le monde quasiment professionnel, mais il a été professionnel longtemps, mais il a su garder un pied, lui aussi, dans le milieu amateur. Il sait ce que c'est, il connaît, comment des joueurs peuvent se transcender. Peuvent arriver à l'espoir qui a été réalisé. Parce que c'est un espoir quand même qui a été réalisé. Parce qu'en plus, au début, quand j'ai vu le score, j'ai dit, bon, ben, ça va être 6 pénalités. On ne sait jamais, un arbitre, bon, un peu, qui en penchant un petit peu, qui veut aider le petit contre le gros. Non, j'ai vu qu'il y avait quand même deux essais, etc.
Très beau, donc, très bien construit.
Et deux essais très bien construits. Après, Nafarro a eu des titres chez les juniors. Tu n'étais que les juniors Ballandrade, mais Ballandrade, c'est un très bon niveau. Il y a 3 ou 4 ans, il y a eu 2 titres, il y a quelque chose quand même. Il y a une formation. Et je sais que ils étaient l'an dernier en Fédérale 2, dans le monde de la Fédérale 2. Quand on parlait, tout le monde parle avec respect de Nafarro, quoi. Et ça, c'est sûr. Il faut savoir que les Basques ont la chance d'avoir quand même dans ce coin-là, entre Basques et Béarn, des clubs, beaucoup de clubs qui produisent des joueurs vraiment de qualité. J'avais l'occasion, parce que j'étais entre Fédéral 3 il y a 2 ans avec Miranda Milan, on est allé à Ramitz, on est allé à la Marais, on est allé à Sparin, etc. Dans tous ces clubs, à Saint-Palais, dans tous ces clubs-là, il y a des bons joueurs. Et tout simplement qu'ils sont bien dans leur pays, qu'ils veulent y rester, quoi. Ça leur dit rien d'aller plus haut, ils se régalent là, et c'est très bien aussi, quoi. Voilà. Et tout fidèle à son pays.
Et puis, il y a des images, moi, et des faits qui me restent quand je vois que des fois, dans des grandes écuries, il y a des joueurs qui font des petits caprices de star, on va dire, en disant, moi, je veux jouer ouvreur et pas centre, ou je veux jouer ailier, pas arrière. Quand on voit le 13, Brust, pour ne pas le citer, qui l'année dernière jouait pilier, ou troisième ligne cette année, joue 3/4 centre, et c'est lui qui donne le ballon, la balle d'essai sur le second essai, qui en même temps se fade les travaux des champs, puisqu'il est agriculteur. Ben moi je dis respect ce monsieur, et puis il donne des grandes leçons à certains pros qui se figent un poste, qui font des petits caprices, en disant que dans le rugby, on est un élément parmi tant d'autres, et on est à disposition du collectif, pas de son ego.
Tout à fait. Je peux rien ajouter à ça, c'est exactement ma conviction. Voilà, que pourvu qu'il y ait encore beaucoup de baïgorie dans le rugby de Nafarro dans le rugby français, il y en a.
Oui, Bédarrid, entre autres, je pense à Bédarrid qui est un club un peu similaire dans l'est de la France, mais très similaire, un vrai rugby de village avec une entente entre Château-Neuf-Pape et Bédarrid. On a eu le président il n'y a pas longtemps au téléphone, qui est une gouaille monumentale, qui est, chaque fois que je le dis, moi quand je vais à Bédarrid ou j'entends Bédarrid, c'est mon bonbon au miel, ce club.
C'est très bien. Je connais pas très très bien Bédarrid, mais je connaissais très bien, je le répète, Baïgorry. Et puis après, je le répète encore une fois, Albi va, c'est une très très bonne leçon. Et bon, je suis persuadé que les Valenciennes va commencer par payer très cher. Bon, ils sont pour rien, les pauvres, mais je pense que Valenciennes va payer très cher. Et que justement, dans les phases finales, etc., et bien, les Albigeois pourront penser à cette défaite, sur le moment un petit peu humiliante, mais qui leur apporte beaucoup. Voilà.
Allez, pour revenir un peu sur Albi et la poule 2 et se recentrer sur la poule 2 en général, déjà il y a un match qui a dû vous intéresser, c'est le Albi-Tarbes qui était télévisé juste avant la trêve des confiseurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Albi a quand même marqué des points en montrant que même dans l'adversité, même si ça avait été dur, bien, ils sont allés se chercher le Graal.
Oui, bien sûr, ils ont remporté le match. Après j'étais au match aller en direct. Et j'avais vu Tarbes battre difficilement, mais avec beaucoup de vaillance, Albi. Sur ce match-là, Albi méritait de l'emporter. On sentait Albi bien supérieur. Et j'ai été surpris quand même un petit peu de la résistance des Tarbais, qui avaient pris connaissance dans la semaine de leurs problèmes financiers, de ces points qu'on leur enlevait, qu'on leur ôtait, tout ça. Et sincèrement, je m'attendais à ce que les Tarbais soient battus beaucoup plus largement sur le terrain d'Albi. Or, j'ai trouvé que les Tarbais, si Claverie marque la finalité à peu près à 10 minutes en quart d'heure à la fin, ont bien quand même posé pas mal de problèmes quand même aux Albigeois. Alors, les Albigeois, à l'heure actuelle, bon, je pense que, je le répète, tout va s'arranger. J'ai vu avec un petit peu de surprise, mais c'est très bien parce qu'il n'est pas présagé que Kevin Boulogne allait remettre ça. Oui. On me dit que c'est pour évoluer sans doute au poste d'ouvreur. Je sais pas si
tout à fait. C'est pour ouvrir au poste d'ouvreur.
C'est pour ouvrir. Certain que ce poste d'ouvreur pose quelques problèmes parce que Bisman, que je connais bien, parce que je le voulais déjà à Albi à mon époque, quand j'avais fait venir Vincent Calas, je voulais Bisman aussi.
Un vrai joueur de caractère, ça c'est.
Bisman était à Béziers, j'étais tout jeune, il avait 20 ans, et je voulais le récupérer. Et il est certain que Bisman est avant tout un demi de mêlée, même si Kevin Boulogne est un demi de mêlée. Mais Kevin peut certainement apporter au poste d'ouvreur par son expérience, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et Bisman, bon, il sera en concurrence à la mêlée avec Magnaval, c'est ça. Ça fera du bien, ça fera du bien aussi à Magnaval. Voilà, il y a deux très bons demi de mêlée. Peut-être que Kevin apportera, peut-être que s'il avait été sur le terrain déjà dimanche dernier, c'est quelqu'un qui est très fin, qui a une forte connaissance du rugby, Kevin, et il apportera un petit peu de sérénité autour de lui dans cette équipe, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le rugby, quoi. Et très doué.
Personne, je pense, ne vous démentira, Henri. Allez, avant-dernière question, on va parler un peu de ce qui a secoué la Fédérale 1 au cœur des vacances. Tous ces soucis financiers, ces premières, on va dire, sanctions, bon, qui peuvent être infirmées en appel, mais qui pour l'instant sont là. Albi qui a quelques petits soucis financiers. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est quand même malheureux qu'en cours de saison, le sportif soit, on va dire, parasité par le financier.
Là, vous savez, je suis pas forcément de ce côté-là de la Fédération française de rugby. Je suis pas forcément du côté des gens qui la dirigent actuellement, mais je reconnais que ils font leur travail là-dessus, que c'est tout à fait normal que ce travail-là soit fait. On peut pas vivre au-dessus de ses moyens dans ce sport-là, quoi. Et c'est normal qu'on soit sanctionné parce que c'est trop facile de faire des dettes, d'agrandir ces dettes, parce que les dettes, bon, mais c'est qui? C'est le car, la société de bus, c'est le boulanger, c'est le boucher, c'est l'agence de sécurité, de l'argent autour de soi, et les clubs de rugby, eh bien, quand on a 2 euros et qu'on en dépense 4, non, c'est pas logique, c'est pas normal, quoi. Il faut rester là-dessus, il faut dépenser, et on ne peut dépenser que l'argent dont on dispose, quoi. Voilà, quoi. Il faut pas aller plus haut, si on peut pas être La volonté, bien entendu, de la plupart des clubs, c'est bien sûr la Pro D2. Pourquoi? Parce qu'il y a la manne financière des droits télé qui vous tombe...
1,6 minimum.
Voilà, et ça c'est sûr que ça crée... Après, je vois quand même des clubs qui sont pris et qui sont en Fédéral 2, par exemple. Il y a eu des clubs qui ont été pris et qui sont en Fédéral 2. C'est quand même un peu gros, quoi. Et certains clubs qui ont été pris aussi, qui n'ont aucune ambition de monter en D2, quoi. Quand même, qui ne peuvent pas ambitionner de monter en D2. Alors, je crois que ces clubs-là, il faut tout simplement qu'ils fassent attention à leurs dépenses, parce que... Et qui cherche surtout à travailler sur leur formation, c'est-à-dire des joueurs qui resteront un peu chez eux, qui leur apporteront ou qui reviendront chez eux un jour après avoir fait une carrière dans un club supérieur. Voilà, c'est comme ça, quoi. On peut pas s'endetter continuellement en se disant moi je suis président, je vais l'être pendant 2 ans et derrière après moi le déluge. C'est pas comme ça que ça procède. Il faut toujours mettre une situation saine au président qui vous succède. Quoi. Voilà, donc. Moi, je trouve tout à fait normal des sanctions, quoi. Après, bon, s'ils réussissent un appel à prouver que la sanction est disproportionnée, bon, mais tant mieux pour les clubs qui pourront le prouver, quoi. Mais il est normal qu'il y ait cet organisme de contrôle, sinon on va vers des faillites.
Une gabegie.
À la sortie de la faillite, il y a des gens humbles, des gens simples, qui c'est eux qui trinquent à casa, quoi. Voilà.
Les supporters, entre autres.
Entre autres, bien entendu.
Alors, on va conclure cette interview avec la dernière question, la question un peu décalée, Radio Albigès. Alors, on sait malheureusement qu'Albi a des soucis financiers. Le président Romégou se l'a dit assez clairement, si à la fin de la saison, il n'y a pas la timbale de la Pro D2, le professionnalisme en albigeois pourrait malheureusement s'arrêter. Alors, malheureusement, peut-être pas, parce qu'on voit qu'avec un statut amateur, on peut aussi faire de très très belles choses. Dans cette hypothèse-là, dans ce cas-là, où on va dire Albi est des soucis, est-ce qu'on pourrait rêver, nous, supporters albigeois, de revoir un jour Henri Broncan avec des fonctions au stadium d'Albi?
Henri Broncan, il va faire 75 ans dans un mois. si vous le revoyez, ce sera peut-être à la maison de retraite à Albi, quoi. Voilà. Non.
Oh, et même à 75 ans, vous avez gardé l'œil pour la formation, pour le recrutement. Certains vous dénomment le Giroud du rugby, un des meilleurs scouts en termes de formation. Je pense que vous avez encore des vieux restes, comme on dit dans le jargon.
Là-dessus, chaque fois qu'Arnaud m'appelle, puisqu'il m'appelle quelquefois, chaque fois que mes amis m'appellent, parce que j'ai gardé des amis à Albi, je suis au courant tout le temps du résultat. Au moment du coup de cette finale d'Albi, je sais ce qu'ils ont fait, je sais ce qu'ils ont fait, où ils en sont à la mi-temps, etc. Donc, j'ai gardé de très bons souvenirs d'Albi. Ça, je peux le garder de tout le monde d'Albi, en plus.
Après, vous pouvez écouter Radio Albigès aussi pour avoir les résultats en direct.
C'est bien, mais la plupart du temps, je suis sur... comme vous jouez quand même souvent le dimanche,
ou à 19h le samedi, ouais.
Et je suis quand même sur les terrains avec mon équipe de Miranda Mielang, avec laquelle je prends du plaisir d'ailleurs. Bon, on gagne, on perd, bon, mais ça c'est autre chose.
Je suis
toujours très au courant, c'est quelque chose, c'est un club, je le répète, je suis resté 4 ans, ça n'a pas été 4 ans facile, pas du tout, hein, parce qu'il y avait déjà des problèmes financiers assez importants à l'époque. Je crois que le président Castaner avait fait là-dessus un assainissement assez important, justement sur le plan. Sur ce plan-là, quoi, voilà, quoi.
Partir de moins de 3 millions pour arriver à plus, c'est duré quand même, et chapeau sur ce côté-là.
Bien sûr, mais il faut savoir quand même qu'il y était arrivé parce que tout simplement, on avait recruté des joueurs qui étaient vraiment hors de prix, entre guillemets. C'est-à-dire, arrivé à l'assainissement, c'était avec des joueurs qui étaient la plupart des contrats espoirs. Il a fallu serrer la ceinture sur le plan de l'effectif. Eh bien, on l'a fait, et en plus, je m'aperçois que ces jeunes joueurs, ont réussi par la suite et font de très très bonnes carrières. On reparle de Guitoun pour l'équipe de France, Lacroix y avait mis le pied, etc. Il y en a d'autres, je vois Tetrashvili qui fait d'excellents matchs avec Agen, et puis d'autres, il y en a plein, quoi. Et on y était parvenu, donc je veux dire que tout ça c'est possible, à condition de faire confiance justement à des jeunes. Après, les jeunes, ils ont certainement très difficile à ce niveau-là, mais après, ils travaillent, ça les durcit, et ça en fait de très bons joueurs, quoi. Il y a quand même sur Albi le potentiel de la ville, quand même. Je crois que ça fait les 70 000 habitants avec la
couronne.
Avec la couronne, quoi. Et il y a quand même des clubs autour, il y a une volonté de on aime le rugby sur ce coin-là quand même. Et moi je suis vraiment optimiste pour la suite, quoi. Voilà, je pense que il est certain que l'année de la montée, ce serait très bien que ça soit cette année. Mais après, il faut surtout pas se décourager, parce que si Albi se décourage, alors que Miranda Mielang, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, avec nos 3000 habitants? Il y a un potentiel sur Albi, il y a des gens qui aiment le rugby. Je pense que les dirigeants actuels ou les dirigeants à venir sauront s'entourer. Il y a quand même un soutien incontestable logistique autour de ce club. Quoi.
Et puis il va falloir peut-être sûrement dans ces vieux bastions, comme je les appelle souvent, inventer des nouvelles choses, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de préceptes et des façons de fonctionner, parce qu'on ne peut plus fonctionner à l'ancienne. On le voit maintenant, le rugby de métropole est en train d'arriver à grands pas, et donc il va falloir que les anciens bastions trouvent des nouveaux leviers.
Oui, mais vous savez que quand Albi, vous avez... Vous savez, Albi, c'est une ville riche, entre guillemets, quand même, voilà, et qui est quand même très très bien placée, parce que autour d'Albi, Montauban est en train de craquer quand même, hein, on s'aperçoit qu'ils sont en train de souffrir, Rodez craque, je pense qu'Albi peut, bon, bien sûr, il y a le problème de Castres, et tant mieux pour Castres, bien entendu, bon, quand j'étais arrivé là-bas, il est certain que j'avais ressenti cette toute-puissance du Castres olympique, bien aidé par les laboratoires, bien entendu, ça c'est énorme, et ça Albi ne l'a pas, mais je suis sûr qu'il y a des richesses sur Albi, des richesses économiques, mais aussi des richesses humaines. Il y a des gens quand même qui sont très très proches de ce club, qui aiment ce club, qui ne laisseront pas tomber, c'est pas possible. Voilà.
Ok, allez, on va finir avec une note positive. Juste vous fais une petite confidence qui va vous faire plaisir. Chaque fois qu'on croise Julien Reynaud et qu'on lui demande quelle est la plus belle saison qu'il a passée depuis l'ensemble de sa carrière, il parle de cette première saison dont vous nous avez parlé tout à l'heure, avec que des jeunes. Vous êtes allé chercher le maintien avec une équipe, une vraie équipe de copains, qui avait peut-être un peu cette âme qu'avaient les Nafartars dimanche à Baïgorry, c'est-à-dire que ils étaient certes peut-être moins forts sur le papier, mais ensemble, on risque rien.
Mais oui, mais avec un capitaine que j'avais désigné, qui était Julien Reynaud, je ne m'étais pas trompé sur le choix de ce rassembleur. Quoi. Voilà, oui. Quoi. C'est très important ça aussi. Il a tenu, dans les difficultés qu'on a connues, il a tenu un rôle primordial.
Eh bien, on vous remercie, Henri, sur ces belles paroles. Votre éclairage est toujours prisé à Albi. On vous souhaite le meilleur avec votre équipe de Mirande. On vous dit que vous êtes toujours le bienvenu, bien sûr, au Stadium Municipal. Et c'est toujours une joie pour la presse, pour les supporters, pour les joueurs de vous voir. Et que vive le rugby des campagnes et le rugby des villes.
Merci, merci beaucoup.
Merci
à Radio Rugby Jeunesse, qui aide beaucoup le rugby.
Merci.
Très bien. Voilà.
Allez, au revoir, Henri.
Et bonjour à tout le monde.
Merci.
Que rajouter de plus après monsieur, avec un grand M, un vrai M majuscule, Broncan? Rien, tout a été dit. Il ne me reste, avec Vincent Clément et Didier Revelat, qu'à vous convier dès 18h45 sur les antennes de Radio Albigès, samedi 12, c'est-à-dire demain, pour suivre en direct le nouveau départ, espérons-le, du Sporting Club Albigeois face à l'avenir valencien. Et pour ceux qui seront au stade, on se donne rendez-vous dans les travées et après le match à la Bodega du comité d'animation et des joueurs pour refaire ce match jusqu'au bout de la nuit. Allez, tous au stadium ou sur Radio Albigès, bien sûr, dès 18h45 samedi, 95.4, 104.2 et le www Radio Albigès. On se fera un plaisir de vous faire vivre les trépidantes aventures du Sporting Club Albigeois. Allez, maintenant, passons au foot féminin, avec un exercice qu'on n'aime pas trop mais qu'on n'aime pas obligé sur le coup, avec notre réponse coup de gueule à Théodore Genoux. Depuis quelques semaines, l'ancien fossoyeur, enfin, excusez-moi, entraîneur de l'SPTT Albi, grand artisan de l'essente en D2, attaque Radio Albigès et le Maxport, même au passage de l'SPTT, sur les réseaux sociaux avec des faux comptes Facebook, des faux comptes Twitter, des vrais comptes, par SMS ou en contactant des gens ayant eu de près ou de loin contact avec le club albigeois par des procédés qu'on jugera un brin nauséabond. Ces griefs envers Radio Albigès, parce qu'il nous intéresse, c'est les griefs envers Radio Albigès aujourd'hui. On ne casse pas assez l'SPT, on ne détruit pas assez ce qui a mis des années à se construire pour monter jusqu'en D1, et on ne pratique pas comme lui la politique de la terre brûlée. Eh bien, c'est pas demain, la veille, je vous le dis. Celui qui est arrivé à la lueur néfaste de Lampadaire, on ne précisera pas, et être reparti sous les colibés des joueuses, qui le trouvaient aussi crédible que Jean-Marie Bigard au poste de Premier ministre, trouve dans un papier sur un site web que l'SPT n'est que l'ombre de l'équipe de la saison passée. Théo, on va faire un faux semblant, on va se tutoyer. Alors oui Théo, mais l'SPT est l'ombre de ce qu'elle était la saison passée, et heureusement dirais-je, car dorénavant, elle joue au football, tu sais, ce petit jeu avec un ballon, et elle arrive à enchaîner 4 passes de suite. Oui, Théodore, l'SPT a été éliminée face au FC Metz, comme le stipule le torchon que tu as écrit sur assistance orthographique, qui sert de résumé sur les 16e de finale, et dans lequel tu te permets de commenter le match de l'SPT sans même l'avoir vu. Alors, l'SPT, tu sais, a perdu contre une équipe de D1. Est-ce vraiment déshonorant? Je ne le pense pas. Quant à ta notion de ventre mou, quand on est cinquième, parler de ventre mou, ça a bien fait rire tout le petit monde du football hexagonal. Quelle objectivité pour un néo-consultant. À t'écouter, bientôt le sixième jouera le maintien. Aberrant pour quelqu'un qui commence une carrière de consultant pour continuer à exister dans un milieu qui le rejette. Enfin, toi, le grand coach qui passe des concours UEFA Pro en Espagne, mais qui n'arrive pas à trouver de club tant ton talent et ton ego sont immenses, tu te permets de juger ce que tu as détruit. À la SPDT, depuis cette saison, tout ne va pas toujours dans le meilleur des mondes, ça c'est sûr. Mais tout le monde bosse, avance, dans une ambiance bien moins puante. Alors oui, tout reste à parfaire, mais le club, à l'instar de Bordeaux, après ton départ, essaye de revenir à un fonctionnement un vrai moins farfelu. Car, Théodore, à quoi te sert de déverser ta bile et critiquer tes anciens clubs, comme tu sais si bien le faire? Ben moi je vois pas. Bon, tu vas réfuter comme d'habitude, mais les faits sont tenaces. Écoutons un peu ce que tu disais sur Bordeaux l'an dernier, encore un club où tu as mis ta zizanie.
Le foot c'est populaire, Bordeaux, Toulouse, là, ces ambiances là un peu fausses, là, c'est faux.
Voilà, des ambiances un peu fausses, personne ne trouve grâce à tes yeux. Mais bon, au lieu de chercher la poussière dans l'œil des autres, regarde la poutre d'incompétence que tu as dans les tiens. Et puis, critiquer Radio Albigès au passage, c'est mordre la main qui t'a bien aidé. Car quand tu es parti en 5e vitesse d'Albi, une main devant, une main derrière, en clair, à poil, n'oublie jamais que n'ayant plus aucune porte albigeoise qui s'ouvrait, tu as été réduit à venir imprimer tes billets de train permettant ta fuite à Varennes, ou, ben tiens tiens, à Radio Albigès. Et quand à ton pot de départ, où nous étions trois, moi compris, grande foule, la foule des grands soirs, c'est encore un des membres du Maxport, Romain Bruno, qui a dû faire la charité. Alors, et au moins la décence, si tu connais bien la signification de ce nom, vu que ton grand vocabulaire, surtout développé pour la sémantique haineuse, de rendre à César ce qui est à César. À Radio Albigès, on a été les derniers sur Albi à avoir pitié de ta situation d'échec et à te tendre la main. Quant à la SPDT, elle t'a donné une chance que je pense, si les présidents ne sont pas fous, sera unique d'entraîner une équipe de D1. Il a fallu bien des intrigues pour que tu arrives à Albi, certes, on va pas s'étendre dessus, mais je pense qu'ayant vu l'étendue de ton œuvre, plus aucun club ne voudra avoir le cirque Zavatta comme coach. Allez, Théodore, enfin, dirons-nous monsieur genou, quoique le mot monsieur ne te sied pas trop. Je vais conclure sur ça tout en te disant qu'il serait malheureux qu'on ait à refaire un coup de gueule prochainement et qu'il te serait sûrement plus intelligent de passer à autre chose et à des occupations plus productives. Tu nous avais demandé comme un service au Maxport de nous renseigner sur ce que pensaient les joueuses après ton départ, toi qui les avais tyrannisées pendant une saison. Eh bien, on a un enregistrement où elles te chantent leurs sentiments.
Délivré, je ne mentirai plus jamais.
Allez, après avoir remis l'église au centre du village, passons maintenant à la vraie actualité, à nos breaking news sport. Première breaking news, le 17 janvier à 20h30 au cinéma de Requista, une soirée spéciale avec le film Yalla Yalla Football Passion Résistance réalisé par Christian Pirovano et Fernando Romanazzo, une première coproduction argentino-palestinienne. Le football véritable passion apparaît ici comme un moyen pour mettre en relief les difficultés quotidiennes des Palestiniens soumis au contrôle permanent de l'armée israélienne, même à travers la simple pratique de cette activité sportive. Ce film est porteur d'un message fort et s'adresse à tous. La projection sera faite en présence du réalisateur argentin et sera suivie bien sûr d'un échange habituel. Rendez-vous donc au cinéma de Requista le jeudi 17 janvier à 20h30. Seconde breaking news, nos amis du basket de l'EASJB vont rencontrer Mazamé Ossion. Donc l'entente Arthès Saint-Jury Basket rencontre Mazamé, comme je vous le disais, ce samedi 26 janvier à 20h30 au gymnase d'Arthès. C'est un match où on vous invite tous à aller, vous avez une petite quinzaine de jours pour vous préparer et vous pourrez aussi suivre les actualités du Arthès Saint-Jury Basket sur leur page Facebook Arthès Saint-Jury Basket. Allez, maintenant on va finir nos breaking news avec le rugby, le SJAO 15. Un club où l'année dernière on avait eu la joie de couvrir leurs 110 ans d'existence avec la présence d'une guest star, et en l'occurrence Bernard Laporte et Clément Ménadier, qui est lui aussi un élément incontournable du rugby tarnais. Et bien le CSJO rencontre. Le SJAO plutôt rencontre Sort Agout 15 pour la 14e journée de championnat. l'appareil le week-end du 27 janvier à 15h au stade des Planques. Donc vous pouvez aussi suivre l'actualité du SJAO 15 sur Facebook et n'hésitez pas à aller les soutenir. Hein. C'est une équipe qui est très attachante et avec une flopée de dirigeants qui œuvrent tous les jours pour faire vivre le rugby amateur en terre tarnaise. Sur ce, ce Maxsport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et sur le www.radioalbiges.com ainsi que petite nouveauté sur nos ondes 95.4 104.2 ce soir dans une eau nocturne à 3h du matin. Et je vous invite à les réécouter pour ceux qui sont un peu insomniaques. Allez, merci à Will pour la technique. Je vous dis à demain pour le direct des 18h45 pour vivre le match SCA Avenir Valencien pour le compte de la 14e journée de Fédéral 1. Et on va se quitter en se disant allez la SCA, vive le sport en albigeois et à Dessias.